Bonjour chers auditeurs, merci d'être là, merci pour les écoutes, merci pour les 5 étoiles sur Apple Podcast et les autres plateformes, merci pour les commentaires que vous pouvez mettre sur vos plateformes d'écoute de podcast, merci pour votre soutien. Vous pouvez maintenant, si vous le souhaitez, me soutenir en vous abonnant aux formules Papatriarcat Plus qui vous permettront d'accéder à du contenu sans publicité et du contenu bonus. Les liens sont en description des épisodes. Je vous souhaite une très bonne écoute.
Avec quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées et après j'ai pleuré.
Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Noémie Delattre. Elle est actrice, autrice, metteuse en scène, humoriste, elle est aussi une mère, elle est aussi une féministe engagée. Nous allons évoquer différents sujets qui touchent à l'éducation, qui touchent à la condition de la femme aujourd'hui dans la société. Je suis particulièrement content de pouvoir la recevoir, car c'est au travers de ses vidéos qu'elle poste très régulièrement sur les réseaux que j'ai pu moi-même prendre conscience de beaucoup de comportements sexistes que je pouvais observer, que je pouvais moi-même avoir. Et c'est vraiment des messages qui m'ont aidé sur mon cheminement vis-à-vis de la condition de la femme et de comment est-ce que je voulais me positionner sur le sujet. Je vous invite donc à l'écouter avec toute sa pertinence, toute sa façon crue de dire les choses. Et justement, sur ce dernier point, je vous invite aussi à écouter le podcast en dehors de la présence des enfants. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Noémie.
Bonjour Cédric.
Bienvenue et merci de m'accorder ce temps pour cette interview. Je suis vraiment ravi de t'accueillir. J'ai expliqué déjà à tout le monde pourquoi je suis ravi de t'accueillir et l'importance que peut avoir ton travail au quotidien dans la vulgarisation de ce que c'est le féminisme. J'ai fait un épisode il n'y a pas longtemps sur le consentement et sur lequel j'effleure un petit peu la culture du viol. Mais pour le coup, je trouvais que c'était quand même assez inconvenant qu'un homme cisgenre blanc d'1m93 prenne la parole sur un sujet. Et est-ce que tu pourrais prendre un instant pour nous expliquer ce que c'est la culture du viol, ce que c'est que de ressentir cette culture du viol en tant que femme? Parce que ben, moi, en tant qu'homme, si tu veux, j'ai du mal à percevoir.
C'est super que tu restes à ta place d'allié, entre guillemets, mais j'aurais pas trouvé ça plus inconvenant que ça si tu avais parcouru ce raisonnement tout seul. Et quant à moi, qui fais de la vulgarisation féministe, il y a assez peu de sujets sur lesquels je me suis vraiment penchée précisément. Enfin, il y a la langue. La langue, je pense que je peux commencer à être un genre d'expert là-dessus sur la question. Mais sinon, je suis pas une théoricienne de la pensée féministe. Et donc, je pense pas être capable de te donner une définition de ce que c'est que la culture du viol. D'abord parce que n'ayant pas été directement concernée, pas par la culture du viol, parce qu'évidemment, les tous et toutes, mais n'ayant pas été directement concernée par le viol, j'ai pas encore, dans tous les sujets qui me passionnent, pris le temps de me pencher dessus. En revanche, quand je t'écoutais parler, puisque tu avais proposé de m'envoyer les questions à l'avance, mais comme j'ai pas eu le temps de les lire, je découvrais tout à l'heure ce dont tu allais me parler. Donc, en t'entendant parler, je réfléchissais en fait à une. Donc, je reviens à un sujet que je maîtrise plus ou moins, qui est la langue, mais à cette idée que dans la manière dont on nous décrit, même de manière tout à fait naïve et innocente à l'école, en biologie, les rapports hommes-femmes, la procréation, la séduction, la sexualité, à chaque fois qu'un rapport hétéro homme-femme est en jeu, que ce soit pour avoir du plaisir, pour procréer, pour séduire, systématiquement, toute la terminologie fait de l'homme l'acteur, celui qui agit, celui qui choisit, qui décide, qui est le sujet, et fait de la femme une espèce de réceptacle amorphe, donc un four quand il s'agit de la procréation, un trou quand il s'agit de la sexualité, et une forteresse à conquérir quand il s'agit de la séduction. Donc dans tous les cas, il s'agit de quelque chose d'immobile et de sans pensée propre, sans désir, sans volonté, et donc forcément sans consentement. Qui irait demander le consentement d'un four ou d'une forteresse? Personne. Donc pour moi, c'est déjà à ce moment-là qu'on fait une erreur. On fait une erreur qui, en plus, va avoir des conséquences tant sur le comportement des femmes, qui vont effectivement pavaner en attendant qu'on les choisisse, et qui vont se soumettre au regard de l'homme, concupiscent, désirant, volontaire, mais sans volonté propre, et dans le comportement des hommes, évidemment, qui vont faire leur marché en s'accoudant à la barrière, en regardant passer les dindes pour choisir celle qui fera le meilleur ragoût. Donc, et là, par exemple, je lisais récemment un article de Slate, tu vois, bah, moi, toute ma vie, on m'a dit, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours entendu qu'on disait aux enfants, bah, c'est le papa qui met la graine dans le ventre de la maman. On m'a toujours dit ça. C'est-à-dire qu'en gros, les bébés sont tout faits dans le sexe de l'homme, et ensuite, il le met dans le ventre de la femme, et ça cuit pendant 9 mois. On m'a toujours, enfin, de 1000 manières différentes, c'est toujours ce qu'on dit. Et même plus tard, en biologie, à des adolescents ou préadultes, etc., on leur explique que les spermatozoïdes font la course dans les trompes de Fallope pour arriver jusqu'à l'ovule, et que le premier arrivé, le plus vaillant, va, clac, comme ça, pénétrer l'ovule. Et en fait, j'ai appris grâce à Slate récemment que c'est tout à fait faux. C'est pas le premier arrivé qui rentre, c'est celui que choisit l'ovule qui rentre, et c'est pas forcément le premier. L'ovule va choisir le spermatozoïde qui lui semble le plus adapté, le plus compatible à son ADN, sa génétique. Bon, bah après, ils font leur business entre eux, j'ai pas les compétences, mais en tout cas, c'est l'ovule qui va choisir quel spermatozoïde va rentrer, et ensuite, il ne va pas rentrer, l'ovule va le gober. Donc, c'est à l'inverse de tout ce qu'on nous apprend. On nous fait passer le spermatozoïde pour un preux chevalier qui a gagné la course et qui pénètre l'ovule, alors qu'il s'agit d'un ovule qui va choisir le bien spermatozoïde et qui va le gober. Donc c'est quand même fou. Et ça, on n'a même pas les mots pour raconter ça. On raconte jamais ça, même en biologie. Même les schémas qu'on fait, pourtant parfois des scientifiques, des futurs scientifiques, montrent ça. Et ensuite, pareil, c'est un autre article que j'ai lu récemment. C'est dommage que je suis très honteuse de ne pas être capable d'en citer l'auteur. C'est un homme et ça ne me revient pas. Mais sur le mot circlusion. Et en fait, dans tout le champ lexical de la sexualité, qu'elle soit homo ou hétéro, on parle de pénétration. Donc que ce soit un gode, un doigt, une langue ou un pénis, et que ce soit pour pénétrer une bouche, un anus ou un vagin, on parle toujours de pénétration, c'est toujours cet acte-là de l'objet phallique, donc du côté viril, qui va rentrer dans quelque chose. Il n'y a que ce mot-là qui existe. Donc c'est-à-dire que même dans une relation sexuelle, par exemple, où l'homme se serait contenté d'avoir une érection et serait resté immobile, et une femme, par les mouvements de son bassin, par les contractions de son périnée, par son intention, par son désir, aurait tout à fait tout fait, c'est-à-dire aurait avec son vagin fait tout, on dirait pourtant qu'il l'a pénétré, qui l'a baisé, qui lui a fait l'amour, qui l'a, etc. Il n'y a pas d'autre mot. Au mieux, on dira « elle s'est fait baiser ». Ce qui est quand même hallucinant, c'est-à-dire qu'on est dans du passif ou triple passif. Il n'y a aucun moment où cette personne, qu'il soit un homme ou une femme, mais cette personne qui est munie d'un trou, d'un orifice, puisse être considérée comme active. Alors que n'importe qui a fait l'amour plus de 2 fois dans sa vie sait que c'est tout à fait possible d'avoir un orifice et d'être sacrément actif, voire plus actif que celui qui n'a pas d'orifice, enfin, ou en tout cas qui ne s'en sert pas. Donc, et c'est pareil. Regarde, donc mon bras, on peut imaginer que c'est phallique, et ça, on peut imaginer que c'est un trou, ok ? Est-ce que là, t'as l'impression que c'est mon bras qui a pénétré ma main ?
Et non.
Pas du tout, évidemment. Là, c'est... Ah oui, mais j'avais oublié qu'on est à la radio.
je vais quand même la garder.
Merci, c'est vrai. Il y aura le petit bruit quand même qu'on a entendu. Mais ce que je veux dire, donc alors pour les gens qui nous écoutent, donc là, j'ai... circlus justement mon bras avec ma main, c'est-à-dire que j'ai entouré mon avant-bras avec ma main, et clairement c'était un geste de ma main sur mon bras et non pas de mon bras qui pénétrait ma main. Alors du coup, je vous donne une autre image qui est que vous allez comprendre sans la voir, parce qu'elle est plus visuelle. Imaginez une vis qu'on enfonce dans un mur. Donc effectivement, là, c'est la vis s'enfonce, elle pénètre le mur. Mais imaginez un écrou que je visse sur une vis. Et ben là, c'est pas la vis qui pénètre l'écrou, c'est l'écrou qui circule la vis. En tout cas, c'est l'écrou qui est actif dans cette relation. Et en fait, le mot existe, donc la circlusion, je circule, tu circules, j'ai circulé son sexe avec mon vagin, voilà. Et sauf qu'on l'utilise pas, on l'utilise jamais, on sait même pas. Moi, j'ai découvert l'existence de ce mot, alors que c'est ma passion, les mots, et le cul, donc franchement, je sais pas pourquoi j'ai pas su plus tôt, mais j'ai découvert ce mot il y a 3 jours grâce à cet article. Donc pour moi, il y a un vrai problème de terminologie. C'est-à-dire que les outils qu'on a pour penser le sexe, qui sont les mots, ne sont pas les bons. Et que dès lors, dès les premières fois qu'on entend parler de sexe, si petit soit-on, on en entend parler dans de mauvaises conditions. C'est-à-dire qu'on entend parler dans quelque chose qui, effectivement, deviendra la culture du viol, c'est-à-dire l'homme prend la femme. C'est l'homme qui prend, c'est l'homme qui possède, c'est l'homme qui monte, c'est l'homme qui baise, c'est l'homme qui nique, c'est l'homme qui... Voilà. Donc après, elle est où la différence ? Enfin, après, le consentement, après, il est super difficile à placer, puisque de toute façon, on est dans une relation où tu as un sujet pensant et acteur, et un sujet passif et objectifié. Donc, tu vas pas demander, encore une fois, tu vas pas demander le consentement à un god.
C'est vrai.
Ou alors, vraiment, c'est ouais. bizarre. Mais, donc, c'est à ça que ça me fait penser, en fait, cette histoire de culture du viol.
Ah ouais, non, mais complètement, ça démarre par la langue, hein, tu l'expliques très bien dans différentes vidéos. Il y a, juste sur la circlusion, dans Les couilles sur la table, il y a un épisode sur la pénétration, Les couilles sur la table, un excellent podcast de Victor Soyon.
Génialissime.
Et justement, ils en parlent, et l'exemple qui est donné pour expliquer, c'est celui du caillou que tu prends avec ta main.
Oui, bah voilà.
Tu n'irais pas dire que c'est le caillou qui te prend, jamais.
Bah non, exactement.
Tu vois.
Moi, avec la vitre, c'est l'écrou, mais effectivement, le caillou, c'est mieux.
Et pourtant, voilà, ouais. Et pourtant, quand on se parle d'un pénis et d'un vagin, ben, c'est le pénis qui prend le vagin. Donc, non, mais c'est ça qui est dingue.
C'est quand même dingue.
Et ce qui est passionnant dans ton travail, c'est justement que tu travailles sur cette langue française qui veut tout dire, hein, le masculin l'emporte sur le féminin.
Voilà.
Vas-y.
Vas-y. Non, mais parce qu'effectivement, il y a plein de... Très souvent, je suis agressée par des gens qui me disent « Oh, sérieux, vous n'avez pas autre chose à foutre que de vous occuper de la langue française, il y a des femmes qui se font violer tous les jours, etc. Et » Et à chaque fois, je suis vraiment ébahie par... alors, quand je suis en colère par tant de bêtises et quand je suis moins par tant d'ignorance, en disant « Mais depuis qu'on est petit, on apprend aux petits garçons que le masculin l'emporte. » Eh ben oui, le masculin l'emporte. C'est ça, le viol, en fait. C'est tout simplement ça, le viol. Et ne pas voir le lien évident entre cette phrase qui est rentrée dans nos têtes depuis toujours, petit garçon comme petite fille, et ensuite le comportement de la classe des hommes par rapport à la classe des femmes, qui est un comportement effectivement de prédateur, de préemption, d'emporter, effectivement. Ne pas voir ce lien-là, c'est vraiment faire preuve de beaucoup de mauvaise foi, quoi.
Mais complètement. Et que ce soit sur le masculin, sur la notion de l'homme, du masculin qui l'emporte, mais aussi dans la disparition du concept des femmes, que ce soit dans les noms de métiers ou dans les insultes, tu le dis très bien d'ailleurs, hein, de mémoire, il me semble bien que tu dis qu'une femme, l'insulte suprême, c'est pute, et pour un homme, l'insulte, c'est fils de pute, tu vois, ou alors on le féminise, femmelette, chochotte, tu vois.
Bien sûr, ouais.
Et pour le coup, la condition de la femme dans le langage passe vachement. Et ça m'amène à mon deuxième sujet, c'est-à-dire, quand on voit à quel point ça peut arriver tôt, ces conditions de genre, dans notre environnement, par le langage, par le comportement, par les attitudes que les enfants peuvent observer. Tu es aussi une mère d'un petit garçon. J'ai eu le plaisir de lire « Tu seras un homme féministe de mon fils » d'Aurélia Blanc, qui parle justement de comment élever un homme dans des préceptes féministes et l'empêcher de devenir un prédateur. Comment est-ce que toi, dans ta condition de mère, tu vis ce sujet-là?
C'est hyper compliqué. Alors déjà, j'ai eu un premier gros choc en devenant maman. C'est qu'évidemment, moi, je ne suis pas du tout... une essentialiste, vraiment je suis l'inverse d'une féministe essentialiste, je suis absolument persuadée que le genre est une construction sociale et que voilà, que les enfants, les bébés sont asexués et que leur sexe biologique prend un sens de genre ensuite par la manière dont on les a élevés, quoi. Et pour le coup, le papa et moi, on était très en phase là-dessus et on a vraiment élevé notre fils comme un enfant. C'est-à-dire que ce soit les couleurs qu'on a choisies pour sa chambre ou pour ses vêtements, que ce soit la manière dont on lui parlait, dont on le laissait pleurer, dont on le consolait, dont les jouets qu'on lui a offerts, tout était tout à fait unisexe. Je crois que c'est Benoît de Groux qui dit « Nous avons... » Non, je ne sais plus qui c'est. Mais une meuf géniale qui dit « Nous avons le courage d'élever nos filles comme nos garçons. Pourquoi n'avons-nous pas le courage d'élever nos garçons comme nos filles ?» Et effectivement, j'ai eu un double choc. Le premier choc que j'ai eu, ça a été de me rendre compte que mon fils avait, je sais pas, moins d'un an, je me souviens plus, mais moins d'un an, il était vraiment minuscule, il marchait même pas, et ben c'était déjà un mec.
C'est-à-dire ?
Je l'avais pas, c'était pas une petite fille, quoi. C'était pas une petite fille, c'était un petit garçon. Il avait déjà des réflexes, des automatismes, des mimiques, des choses de petit garçon, alors qu'il était élevé dans une chambre violette, avec des vêtements violets. Enfin, je veux dire, on avait vraiment, il a la poupée Corolle, le baigneur, le machin, autant que les voitures. Enfin, on l'a pas non plus frustré, mais on l'a élevé vraiment comme un enfant, un être neutre, dans la mesure du possible. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'est impossible, parce que tu peux rien faire contre l'exemple. Et l'exemple qu'il avait, c'était une mère, moi, qui suis quand même super féminine, et un père qui, bien que hypersensible, hyper machin, ça, est super, est d'apparence hyper masculine. Bah, tu vois, il est en basket, il fait la bagarre tout le temps, on joue, on fait des blagues, on se pousse, on mate le foot, il est presque caricatural là-dedans. alors qu'il est par ailleurs extrêmement sensible et fin. Et que donc, évidemment, ce bébé a eu, dès les premiers moments, une mère extrêmement maternante, qui l'a allaité longtemps, qui lui faisait des câlins, qui lui parlait doucement, avec une voix douce et qui lui faisait des bisous, et un père qui lui faisait des bourrades dans l'épaule avec des blagues. Ben, il n'a même pas fallu 6 mois pour... voilà. Après, ce qui m'a fascinée, c'est comment... Pourquoi s'est-il identifié à son père et pas à sa mère ? Comment a-t-il été capable de comprendre qu'il était... Parce qu'à cet âge-là, tu ne vois pas que tu as un zizi avec ton père aussi. Enfin, donc, pourquoi est-ce qu'il s'est identifié au père et pas à la mère ? Donc ça, c'était mon premier gros choc. Qu'il y ait une différence à ce point-là. Parce qu'évidemment, j'avais remarqué hein, que certains avaient des poils et d'autres pas. Que certains avaient des nichons et d'autres des... Bon, j'avais remarqué, hein, bien sûr. Mais je pensais pas... En fait, je pensais qu'on pouvait rester asexué jusqu'à la puberté. Je le pensais sincèrement. Et en tout cas, enfin, si on vivait sur une île déserte, je veux dire. Et en tout cas, en vivant en société, je pensais qu'on pouvait rester asexué, oui, jusqu'à ses 2-3 ans. Enfin, j'avais cette image-là, tu vois. Et voilà, donc ça, c'est le premier gros choc. Et le deuxième gros choc, ça a été de me rendre compte que cette phrase de cette autrice, dont le nom ne me revient pas, mais je crois pas que c'était Benoît Gros, finalement, qui disait « On n'a pas le courage d'élever nos garçons comme nos filles », je me suis rendu compte de ça aussi. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que, évidemment, c'était une de mes... priorité absolue, que cet enfant soit élevé comme un homme allié des femmes, comme un allié féministe, comme enfin voilà, que ça soit un mec formidable, et à la fois je voulais qu'il soit heureux, intégré, pas martyrisé, etc. J'ai lu plusieurs témoignages de parents, tu vois, dont par exemple les enfants veulent se mettre en robe, les garçons veulent se mettre en robe à l'école et qui ont des réactions géniales. Bon, t'as des cons qui disent « Ah, jamais de la vie !» Voilà, mais dans les gens intelligents qui ont à gérer ça, tu vois que ce qui est en jeu et qui est hyper compliqué, c'est qu'à la fois, évidemment, ils ont envie de laisser cette liberté à leur enfant, parce que eux, ça leur pose aucun problème qu'ils soient en robe, et si ça leur rend heureux, pourquoi pas, mais qu'en même temps, ils ont pas envie que cet enfant se fasse massacrer à l'école parce que outcast, parce que etc. Et c'est vachement intéressant de voir, enfin c'est et déchirant de voir ce déchirement justement. Et j'avoue que j'ai un peu, alors je crois que je fais quand même au mieux, hein, mais que on peut pas dire que j'arrive pour l'instant à l'élever 100% comme j'élèverais une fille. C'est-à-dire que, alors je passe mon temps, parce qu'en plus c'est comme toi, il a tout pour être un parfait connard. Hein, c'est un mâle blanc, bourgeois, valide. Donc ça a tout pour être voilà, donc j'ai intérêt à sacrément bien l'élever pour que ça devienne quelqu'un comme toi justement, donc ça pour le coup, je pense que je fais bien, enfin au mieux en tout cas pour que ça soit un mec bien, mais que je fais pas encore assez pour que ce soit, je fais encore des concessions disons à la société, à son bien-être, à son intégration, à tout ça. Et après ce qui est fascinant, c'est que depuis qu'il est à l'école, enfin depuis très tôt hein, je me rends compte que je dépose le matin à l'école un petit garçon féministe et je reprends un con de macho le soir. Hein. C'est-à-dire qu'en une journée d'école, ils m'ont plingué, quoi. Enfin, c'est... Vraiment, il revient avec des trucs... Enfin, mon fils, enfin, tu vois ce que je raconte tous les jours, mon propre fils est quand même revenu en me disant « Les filles, c'est nul, les filles savent pas courir. » C'est-à-dire qu'il a même cru qu'il courait plus vite que moi parce que j'étais une fille.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Donc bon, ça, j'ai pas eu trop de mal à lui prouver que ben non, hein, bien sûr, mais t'imagines ? C'est-à-dire que le gars est tellement certain de la supériorité masculine que même sa mère, enfin même une adulte, qui mesure 2 fois sa taille, il est capable de se dire « Non, je vais quand même courir plus vite parce que je suis un mec. » T'imagines ?
Mais la puissance du message, quoi.
Ouais, donc je suis très très effrayée par ce qu'on leur apprend à l'école, par la manière dont on leur apprend toujours le masculin l'emporte, alors qu'il y a une directive nationale d'il y a 3 ans qui dit que maintenant la règle de proximité est acceptée, mais elle est quasiment jamais enseignée et on continue d'enseigner le masculin l'emporte. D'autant qu'en plus même les profs qui souhaitent absolument continuer à respecter la règle ne sont pas obligés de la formuler comme ça. Et pourtant si. Non seulement l'immense majorité des profs respectent la règle, mais une grosse majorité, dont cette majorité, continue de l'appliquer en la formulant ainsi. le masculin l'emporte. Alors qu'on pourrait juste dire, en grammaire, enfin, il y a quand même des moyens qui soient moins, tu vois, hypnotiques que ça. Et donc, m'apercevant que tous les matins, enfin, que tous les soirs, je le récupérais, je me suis rendu compte que c'était sidif, quoi. Je pouvais pas sans cesse repousser mon caillou pour me le reprendre dans la gueule le soir. Donc, il fallait que je trouve d'autres choses. Donc, du coup, j'ai arrêté de déconstruire les choses une par une. C'est-à-dire, j'ai arrêté de répondre. J'ai arrêté d'être en réaction à ce qui... Voilà. Et simplement, je me contente, là, pour l'instant, de lui donner des outils. C'est-à-dire que, par exemple, à la maison, on n'emploie jamais, 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 jamais le masculin pour le neutre. Jamais. On ne dit jamais, quand il me dit « c'est quoi un chauffeur de bus ?» Bah, c'est un monsieur qui conduit un bus. Non. C'est toujours « c'est un monsieur ou une dame qui conduit un bus, c'est un monsieur ou une dame qui va dans l'espace, c'est un monsieur ou une dame qui est tombée malade, c'est un monsieur ou une dame qui fait la cuisine, c'est un monsieur ou une... » Toujours c'est un monsieur ou une dame. Toujours quand on voit quelqu'un dans la rue, qu'on ne voit pas dans une voiture par exemple, « mais qu'est-ce qu'il fait lui ? Qu'est-ce qu'il ou elle fait ?» Toujours. C'est-à-dire que systématiquement, on fait exister dans le neutre, dans l'inconscient, dans l'inconnu, le féminin autant que le masculin. Et là où c'est génial, c'est que son papa, alors qu'on vit pas ensemble et tout, tu vois, et que je lui ai pas demandé de le faire, en fait, il a tout seul, spontanément, il m'a vu le faire 3 fois et bim, il a compris le truc et il le fait aussi, ce qui est vraiment génial. Donc là, pour le coup, mon fils, il est baigné. Et par exemple, tu vois, je te tiens par la barbichette. On le fait. Et donc, je lui dis, quand il le fait avec son père, il n'y a pas de problème, mais quand il le fait avec moi, je lui dis, le premier ou la première de nous deux qui rira aura une tapette. Et donc voilà, et puis quelques mois après, on y rejoue, et moi j'avais oublié, et puis la chanson, je la connais par cœur. Et c'est lui qui me reprend, qui me dit le premier ou la première. Mais en fait, parce que c'est super facile, en fait, quand tu as cet âge-là, pour le coup, mais il n'y a aucun souci. Quand je vois la facilité avec laquelle je lui inculque cette idée que n'importe quel être humain peut être un homme ou une femme, à n'importe quel endroit, n'importe quel poste, n'importe quelle situation, la facilité avec laquelle il a intégré ça, tu comprends aussi la facilité avec laquelle le masculin l'emporte, ça te flingue des générations et des générations, quoi. Ça va super vite. Il a tout à fait intégré ça, et il le fait lui-même. Il accorde tout le temps, il parle inclusif, tu vois. Il dit « vous êtes bel et beau ».
C'est l'environnement, tu lui proposes un environnement qui le fait, donc c'est ça qui est chouette avec la plasticité à cet âge-là, ouais. C'est formidable. C'est aussi formidable, et ça va rassurer beaucoup de parents qui nous écoutent, de savoir que Noémie Delattre, c'est une parent comme les autres aussi, avec ses convictions, avec ses difficultés, avec ses doutes. Et ouais. Non, mais c'est ça, tu vois, aussi, parce que...
Ah non, mais je galère grave, hein. Je galère grave.
Non, mais ça fait du bien. Ouais. Non, ça fait du bien de le dire, parce que, tu sais, sur les réseaux, c'est quelque chose qui est ressenti par beaucoup de parents. On voit beaucoup de choses qui ont l'air parfaites. J'ai bien dit qu'elles ont l'air, ouais. Hein, c'est une vitrine. Et ça fait du bien de voir qu'une féministe aussi engagée que toi, une mère, peut ressentir ces difficultés-là sur un sujet qu'elle porte. Ça va vraiment faire du bien.
Alors, je vous rassure parce que vraiment, c'est très très dur, je galère, je fais plein d'erreurs, c'est extrêmement compliqué. Et puis en plus, on n'est pas, personne n'est censé être capable de s'élever seul contre une société entière, contre des siècles de société. Personne n'a ce pouvoir-là. Donc après, c'est le colibri. Je pense que, voilà, moi, j'ai fait ce truc-là parce que ce truc-là, j'ai vu que j'étais capable de le faire et qu'il était capable de l'entendre. C'est peut-être la seule chose que je ferai avec lui. Peut-être que d'autres parents vont faire une seule autre chose avec leurs enfants, mais que du coup, si tous ces enfants qui ont eu un petit machin sont dans la même classe,
c'est ça.
Tu vois, et le colibri.
Ça va faire un bel effet. Et pour le.
Tu fais quoi, toi ? Comment tu fais ? Comment tu
moi,
fais,
j'ai
toi ?
Une fille.
Et qu'est-ce que tu
lis ? Alors, ce qu'on vient apprendre, déjà, ça passe aussi par les lectures. Hein. Alors, tu verras sur Instagram, il y a tout un tas de choses qu'on fait. Ça passe par éviter certains comptes. Alors, n'en déplaise à... J'ai beau adorer... on va le citer, j'ai beau adorer Disney, si tu veux. J'ai enlevé Cendrillon du répertoire, parce que c'est quand même l'apologie de la beauté. Et même en le passant, en le masculinisant, parce que c'est un exercice que j'essaye de faire aussi, tu t'aperçois que c'est juste une apologie de la superficialité, en fait. On évite La Belle au bois dormant, parce que c'est quand même mettre dans l'idée que t'attends ton prince charmant, et puis même si tu dors, il peut t'embrasser, il n'y a pas de problème. Désolé pour ceux qui nous écoutent.
Ça s'appelle le viol.
Voilà, hein. Et pourtant j'adore le Roi Lion, hein. J'adore Disney, mais il y a des choses qu'il faut revoir. Et puis il y a de très très bons ouvrages qui existent, qui sont très intéressants. Je ne les ai pas tous en tête, ils sont sur mon Instagram dans la rubrique lecture. T'as notamment le manifeste Nous sommes tous féministes qui a été transposé en album jeunesse qui est génial. Il y a le livre dont je t'ai parlé récemment, Renversant, qui est très très intéressant, où les enfants en fait sont dans un monde où tout est inversé, où on, voilà. Yeah. Et en fait, des ressources, il y en a. Après, au niveau d'une fille, vraiment, moi, je mets l'accent sur le consentement, le consentement, le consentement. Ça, c'est hyper important. Et puis, c'est aussi la laisser faire. Surtout dans l'éducation, on a quand même vraiment une partie où on verbalise beaucoup avec les filles, on est beaucoup motricité avec les garçons. Ça démarre en fait là. Hein. Et pour le coup, ouais, l'idée, c'est on verbalise beaucoup parce qu'on veut que son langage se développe, mais on est aussi très dans la motricité parce que bah, on veut lui expliquer que voilà. Et ça passe par des petits trucs à la con. Genre, elle arrive à soulever un truc. Oh, que tu es forte, que tu es costaude. Tu vois,
génial,
c'est des
génial.
Choses
ah, c'est cool.
que tu dis pas naturellement, en fait, quand tu sors du système patriarcal.
Ah non, bien sûr.
Donc voilà, mais pour ça, faut prendre conscience, faut s'éveiller. Et pour s'éveiller, justement, moi, je veux que tu nous parles de cette méthode que tu utilises, et que je cite d'ailleurs dans mon tout premier épisode de podcast, puisque je l'ai transposé sur l'adultisme, c'est cette capacité à vulgariser, à détecter les situations sexistes, parce que, très sincèrement, pour avoir échangé avec pas mal de pères et de collègues masculins et féminines aussi, hein, qui se rendent pas compte, c'est-à-dire que même des femmes se rendent pas compte qu'elles subissent du sexisme. Hein.
Ouais.
Et c'est ça, c'est dingue. C'est comment se rendre compte qu'une situation est sexiste. Je te laisse prendre la parole parce que tu l'annonces tellement, tellement bien.
non, mais effectivement, la chose, le petit exercice que je m'amuse à faire et qui marche vraiment tout le temps, enfin, j'ai pas eu pour l'instant de contre-indication, c'est de remplacer femme par noir. Que ce soit dans une phrase, tu vois, les femmes sont naturellement plus à l'aise avec les travaux domestiques. Ça gêne personne, tout le monde dit ça. T'as même des articles de presse aujourd'hui, de presse mainstream qui disent oui, les femmes sont plus à l'aise. Tu mets noir, t'imagines ? Les noirs sont plus à l'aise avec le travail domestique. Et là, tu te rends compte que c'est le racisme incarné, que c'est monstrueux ça. Donc, tu peux faire ces exercices dans les phrases, mais aussi dans les actions, dans les choses qui se passent. Tu vois, par exemple, oui, c'est le suffrage universel. Ah non, les noirs n'ont pas le droit de vote, en revanche. Pardon ? Et ben pourtant, ça a été ça pendant des années. Un suffrage universel où les femmes n'avaient pas le droit de vote et ça gênait personne. Oui, on vit dans un pays où, c'est vrai, les Noirs sont 25% moins payés que les Blancs. Mais vous vivez où tu vois, vous vivez en Corée. Qu'est-ce que... Bref, donc, et ça marche vraiment très très bien pour éclairer, parce qu'heureusement, il y a malheureusement encore beaucoup de chemin à faire sur le racisme, évidemment, mais... Heureusement, on a quand même fait de grandes avancées au niveau international qu'on n'a pas du tout fait sur le sexisme, qui reste vraiment le sexisme et l'homophobie, qui reste vraiment la cause, la dernière cause perdue dont tout le monde se fout et qu'on nie parce qu'elle concerne la moitié de l'humanité, quoi. Et que la moitié de l'humanité n'a pas envie de perdre ses privilèges. Ce que je peux comprendre, enfin, je peux comprendre qu'on rechigne un peu à perdre des privilèges. Après, évidemment, quand on réfléchit, on sait que vous ne ferez pas que perdre. Enfin, vous dire que vous ne perdrez rien, ce serait vous mentir. Voilà. Il y a un moment, ça s'appelle, c'est la mécanique, quoi. Si quelque chose remonte, quelque chose doit diminuer, forcément. Mais en revanche, dire que ça ne serait pas pour qu'au final l'humanité entière soit plus heureuse. Ça, c'est vrai.
Non, mais c'est ça. Faut penser en termes de... Faut sortir de sa condition. C'est ce qui est difficile. Hein. Je, en toute transparence et sans du tout... Alors, je précise. Sans du tout excuser quelque comportement masculiniste qui soit. Moi, tu vois, personnellement, et avec d'autres témoignages aussi, c'est tellement profond. On vient d'en parler. Hein, c'est tellement profond et c'est tellement ancré profond que des fois, il y a des câblages qui se font pas, tu vois.
Évidemment.
Tu vois, sur la culture du viol, je vais donner juste un exemple. J'habite à Bordeaux, je travaille à Poitiers, je prenais le train qui passe par Angoulême. Un soir, je rentre un samedi soir, il est 20h passé, tu vois, il est un peu tard, il fait nuit, et je me mets dans la dernière voiture du wagon, je suis pratiquement tout seul, et je me dis, cool, je vais être tranquille. J'ai failli me faire agresser. Franchement, j'ai failli me faire agresser, ils étaient si mecs, bon voilà, ça s'est bien fini pour moi. Et je raconte ça à ma compagne le soir. Et elle, le premier truc qu'elle me dit, c'est « Non mais qu'est-ce qui t'a pris de te mettre tout seul ?» Non mais jamais. Et là, je te promets, ça m'a fait une épiphanie, quoi. Je me suis dit « Mais on n'a vraiment pas les mêmes câblages, en fait. »
C'est dingue, hein.
Tu vois. Et y a une vraie difficulté. Et il y a quelque chose que je dis, et je sais que c'est facile de le dire dans ma position, que je dis régulièrement, c'est ce combat, ce sujet-là, il faut le mener. La question ne se pose même plus, il faut le mener. Et les hommes vont avoir besoin que les femmes soient meilleures que nous. Hein. on va avoir besoin que vous nous expliquiez, que vous nous tendiez la main, que en fait on n'a pas les câblages.
Non mais c'est sûr, mais moi toujours avec cette comparaison noir-blanc, et je crois que c'est pour ça qu'elle me, enfin noire-femme, c'est pour ça qu'elle me parle autant, c'est que moi pour le coup ça je l'ai vécu en tant que blanche. J'ai eu comme toi une épiphanie un jour où j'étais dans un rassemblement de femmes, enfin à propos du féminisme, etc. Il n'y avait pas que des femmes, mais il y avait une majorité de femmes, et il y avait beaucoup de femmes noires. Et notamment, j'étais moi avec, j'avais les trois copines qui étaient autour de moi étaient noires, et puis dans la salle, pas loin, il y avait d'autres femmes que je connaissais pas personnellement, mais qui étaient noires aussi. Et puis, il y a eu un sujet qui s'est lancé, je sais pas sur quoi c'était, mais sur un truc qu'elle subissait. De racisme en permanence, etc., sur un truc très précis, etc. Et le truc prend beaucoup de place en disant oui, les blancs sont. Et en fait, j'ai été tentée, j'ai failli dire, mais pas moi. J'ai failli dire, mais moi pas, je suis pas comme ça, je ressens pas ça. C'est-à-dire qu'au milieu d'une assemblée de femmes noires qui étaient en train de se battre pour quelque chose d'essentiel pour elles, de vital pour elles, moi qui suis une femme blanche, donc qui suis un échelon au-dessus sur la chaîne de la discrimination et de l'oppression, moi j'ai failli dire, attention, moi pas, hein. C'est-à-dire que j'ai failli défoncer un système entier juste pour sauver mon petit nombril et dire que moi, j'étais une bonne blanche, bien gentille, etc. Et en fait, là, à ce moment-là, j'ai compris ce que plein de mecs font, qui consiste à dire « not all men »,« mais moi, je ne suis pas comme ça »,« mais moi, je n'ai jamais vu les personnes »,« mais moi, j'aime les femmes »,« mais moi, je m'achète ça ». Et qu'à chaque fois, j'ai envie de dire « mais qu'est-ce que je m'en branle, connard ?» Enfin, je veux dire, à quel moment le fait que « tu veux quoi ? Tu veux une gommette ?» Tu veux qu'est-ce... Bon, bref. Et en fait, cette rage que j'ai contre les hommes qui font taire un discours entier juste pour se sauver eux, j'ai failli le faire moi. Et en fait, ça m'a fait comprendre ça. Et ensuite, j'ai discuté avec mes potes, les trois filles qui étaient là, et en fait, elles m'ont dit que j'avais très souvent des comportements racistes. Moi, enfin, c'est comme si, je peux pas vous dire, ça a été un choc. Enfin, j'étais mais hyper blessée, quoi. Elles m'ont dit, bah, évidemment, parfois tu dis des choses, tu comprends pas. Ou voilà. Et je me suis rendu compte que sur tout ce que je n'étais pas, donc en l'occurrence noire et transgenre, parce que j'ai aussi fait des erreurs là-dessus, c'est même pas que j'ai pas les câblages, c'est que j'ai pas la connaissance. Je ne sais pas ce que c'est que d'être une personne trans et je ne sais pas ce que c'est que d'être une personne non blanche. Je ne sais pas ce que c'est. Et que donc, évidemment, je ne peux pas deviner. Je peux pas... Évidemment, je vais faire des erreurs. Évidemment, je vais parfois pas employer le bon mot. Je vais effectivement pas avoir la bonne image, la bonne réflexion. Mais... Et en fait, ces filles, elles ont été hyper courageuses. Et... C'est qu'elles ont pris du temps pour me former. Elles ont pris du temps. Ça a été hyper chiant pour elles. Je ne les ai pas payées. C'était bénévole. Et elles ont pris du temps pour me former, pour m'expliquer, pour me dire des choses, pour me dire bah, « quand tu dis ça, c'est raciste. Quand tu fais ça, c'est raciste. » Et pareil pour la transphobie. Alors là, j'avais en plus hyper mal pris parce que c'était sur les réseaux sociaux et quelqu'un m'avait traité de transphobe. J'étais là, les gars, arrêtez de dire de la merde. Non, j'avais refusé en bloc ce qu'on m'avait dit parce qu'il y avait l'entête transphobe, donc ça effaçait tout. Mais après, la personne en fait a été assez intelligente et elle m'a écrit en message privé en me disant pardon, etc. Voilà ce que je voulais dire. Et elle m'a expliqué et un point de vue, effectivement, que j'avais pas compris. Que je pouvais pas deviner sur la transidentité, etc. Et donc, du coup, ça m'a rendue vachement plus tolérante envers les mâles blancs cis. C'est-à-dire qu'effectivement, vous pouvez pas deviner. Après, je comprends aussi les meufs qui disent « Merde, je suis pas ta mère, je suis pas ta prof, je suis pas payée pour te former, j'ai autre chose à foutre. Pendant que toi, tu gagnes 20% plus que moi, excuse-moi, je vais pas encore plus prendre du temps pour te former. » Donc, je comprends aussi cette réaction-là, quoi.
Et surtout qu'aujourd'hui, c'est pas les supports qui manquent. Hein. Concrètement, il y a des très très bons livres, que ce soit des livres écrits par des femmes. Hein. Je pense à Mona Chollet, je pense notamment à ces ouvrages de jeunesse dont je parle, qui sont magnifiques. Alors, j'ai plus le nom des autrices en tête, je suis désolé. Mais aussi par des hommes. Hein. Il y a des livres d'Ivan Jablonka qui sont vraiment très très bien sur le sujet. Moi, je viens de finir Des hommes justes et c'est vraiment un livre passionnant. Et nous arrivons au bout de cette interview, Noémie. Donc, merci beaucoup pour cet échange. C'était passionnant.
Merci. Merci à toi. C'était très, très intéressant pour moi aussi. Merci beaucoup.
Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner. Et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Hop, c'est encore moi. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi t'abonner à Papatriarcat Plus et découvrir chaque semaine un épisode bonus en plus des 60 déjà disponibles. À découvrir sur tes applis de podcast comme Pocket Cast, Castbox ou encore Apple Podcast. À très vite.